L'EM, l'émission, l'émission, sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, on reçoit un scientifique de l'Institut de Recherche et Développement pour le Développement, IRD. C'est un organisme public qui participe à des recherches scientifiques, techniques, en collaboration avec certains pays en développement. À Brest, les chercheurs de l'IRD sont souvent et même parfois au LEMAR, le Laboratoire des Sciences de l'Environnement Marin. C'est le cas de notre invité, qui est plus exactement chimiste des substances naturelles marines. Car c'est le sujet de notre émission, un océan de possibles, des substances très nombreuses du milieu marin qui pourraient nous faire du bien à nous les humains. Notre invité va tout nous dire, ou presque. Bonjour Sylvain Pétec.
Bonjour.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu rapidement le contexte historique? Depuis quand est-ce qu'on a pris conscience que finalement il existait dans l'océan des substances qui pouvaient nous profiter?
Alors historiquement, ça peut remonter très très loin en fait. On remonte à quasiment 2800 ans avant Jésus-Christ. Mais cette connaissance est quand même très, elle se situe plutôt en Asie en fait. C'est très localisé, voilà, plutôt en Asie. Et ça, c'est dans la pharmacopée traditionnelle chinoise en fait, qui a les premières mentions en fait des usages principalement des algues pour le traitement des ulcères gastriques et des goitres. Et après, bien plus tard, c'est les Japonais en fait qui utilisent notamment une algue rouge pour traiter comme antiparasitaire en fait. Donc voilà. Mais ça reste assez localisé et à cette région du monde en fait. Après, l'usage général des substances naturelles et donc des plantes est plutôt terrestre en fait,
c'est ça,
l'échelle du monde. Ce qui fait que l'usage qu'on veut en faire aujourd'hui des médicaments est quand même très très comme médicament est plutôt récent et c'est plutôt on a un démarrage plutôt dans les années 50, donc à l'échelle de l'histoire humaine c'est quand même hyper récent en fait.
Et l'IRD, l'Institut pour la Recherche et le Développement, a toujours travaillé là-dessus ou c'est un sujet qui est assez récent aussi?
Alors les travaux sur les substances naturelles marines pour des applications en santé humaine à l'IRD datent des années 80 avec le CNRS en fait, principalement en Nouvelle-Calédonie. C'est parti de là en fait, principalement en ce qui concerne l'IRD en fait. Et donc après ça s'est poursuivi en ce qui me concerne dans le Pacifique quand j'ai rejoint l'Institut. Et donc, on a prospecté comme ça au travers de l'océan Pacifique, mais d'autres collègues, d'autres organismes ont étudié des organismes marins ailleurs dans le monde, quoi. Mais pour ce qui est de l'IRD, on est principalement parti de cet endroit, quoi.
Et pour ce qui est de l'exploitation industrielle de ces substances marines, c'est récent aussi, je suppose.
Là encore, ces travaux... Alors, comme je vous disais, ça a démarré dans les années 50 avec, en Italie, par exemple, la découverte des céphalosporines, donc qui sont des antibiotiques encore utilisés aujourd'hui, qui proviennent d'un champignon qui était présent dans la lagune en Sardaigne. Et ensuite, on a aussi, les premières études sur des éponges en fait marines dont notamment les arabinosides qui viennent d'une éponge des Caraïbes, dont on a tiré un anticancéreux et un antiviral dans un premier temps. Et en fait, c'est surtout la recherche contre le cancer en fait, qui a donné un petit coup de boost en fait, à ces travaux, où on a justement, on s'est mis à explorer en fait, cet environnement. Et c'est aussi le développement des techniques d'exploration qui ont permis en fait, d'aller chercher et récolter ces organismes. Parce que, jusqu'à récemment, en fait, le principal handicap en fait, à l'accès à ces organismes, c'était justement d'avoir des moyens d'exploration. Et donc, la plongée autonome, par exemple, a permis de développer tout ça.
Oui, comme toujours, c'est ce grand inconnu qu'est l'océan, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y a dessous, n'est-ce pas? Alors, vous travaillez sur les principes actifs. Alors, principe actif, c'est un terme un peu générique. Qu'est-ce que ça peut être, un principe actif?
Alors, d'une manière générale, au niveau d'un médicament, le principe actif, comme son nom l'indique, c'est la substance qui est responsable de l'activité thérapeutique du médicament. Et généralement, les principes actifs sont des molécules qu'on dit organiques. Donc les molécules organiques, ce sont les molécules du vivant. Ce sont des molécules qui sont principalement constituées de carbone et d'hydrogène, et les atomes de carbone formant le squelette de la molécule. Et après, on va retrouver différents autres atomes qu'on appelle hétéroatomes, comme l'oxygène, l'azote, et des halogènes, comme le chlore, le brome ou l'iode, qui vont venir conférer comme ça des propriétés particulières à ces molécules, en fait.
Ouais, c'est une chimie, justement. C'est ça, c'est du vivant et puis du...
En quelque sorte un genre de Lego, en fait. On va retrouver des groupes fonctionnels, en fait, avec certaines propriétés. Et le vivant va les assembler d'une certaine manière pour obtenir certaines fonctions, en fait.
Et donc, c'est plutôt de l'animal et du végétal, sinon, les substances que vous prélevez en général? Ou est-ce qu'il y a du minéral aussi? On essaie de les visualiser, entre guillemets.
L'origine de ces molécules, donc, comme je le disais, ça vient principalement du vivant. Donc, ça peut être animal, végétal, ça peut être des micro-organismes également. Et puis après, une fois qu'on a isolé ces composés, il va y avoir tout un travail de chimie, soit pour, si on cherche à produire ces composés, réussir à reproduire la synthèse de ces molécules en laboratoire, soit pour modifier en fait ces molécules pour leur donner d'autres propriétés, ou pour potentialiser leur activité, par exemple.
Ouais, on va voir ça plus tard. Ouais. Justement, on va développer un peu les exemples. Mais est-ce qu'il y a des molécules justement qu'on ne trouve que dans le milieu marin?
Alors, c'est ça aussi l'intérêt et la spécificité du milieu marin, c'est que par rapport au terrestre, puisque la pharmacopée traditionnelle est plutôt orientée sur les plantes terrestres historiquement, donc on a une bien meilleure connaissance en fait de cet environnement. Mais il se trouve que, comme vous le savez certainement, l'origine de la vie vient de l'océan, et donc toutes les formes de vie sont présentes dans le milieu marin, en fait. Et ce qui fait qu'on a une diversité d'organismes qui est sans commune mesure, en fait, avec ce qu'on peut retrouver en terrestre, et donc ce qui offre, en fait, une diversité de molécules et des originalités en termes de structure que l'on ne retrouve pas dans le terrestre. Autre particularité aussi dans le milieu marin, c'est qu'on va retrouver des éléments peu ou pas présents en fait en milieu terrestre, comme des halogènes, donc le chlore, le brome, l'iode, ou des métaux qui sont très faiblement présents naturellement. Donc on va retrouver par exemple du nickel incorporé en fait à certaines molécules, chose qu'on n'aura que très rarement, nickel ou autre, dans le milieu terrestre, en fait.
Alors, vous, quand vous cherchez, entre guillemets, les principes actifs, les substances en question, vers quel organisme marin vous vous tournez vous avez un peu parlé des éponges, mais en priorité, vous explorez quoi?
Déjà, on ne peut pas tout faire. Donc, l'océan est très vaste. Donc,
vous pouvez nous parler des autres, mais oui. Après, vous nous direz vers lesquels vous vous tournez, vous.
Voilà. Alors, d'une manière générale, on a trois grands groupes, on va dire, d'organismes. On a les invertébrés, qui constituent à peu près 65% des molécules d'origine marine isolées jusqu'à maintenant. On a les micro-organismes, pour 20 à 23% à peu près. Et les macro-algues, pour une quinzaine de pourcents, en fait. Voilà, à peu près comment ça se répartit.
Et alors, les champignons marins, on les met dans quelle catégorie?
Plutôt les micro-organismes.
D'accord, ouais. Ok. Ouais. Parce qu'ils sont petits, vraiment petits en général.
C'est ça.
Ouais, d'accord, ok. Et donc, ouais.
Et donc après, au niveau, donc, en ce qui me concerne, moi je m'intéresse plutôt aux invertébrés, et plus spécifiquement donc aux éponges. Donc les éponges, pour ceux qui ne le savent pas, donc, sont des animaux filtreurs.
On se demande toujours déjà si c'est des animaux ou des végétaux. Donc.
Disons que voilà, c'est assez particulier, parce que ce sont des animaux qui sont, qui sont très anciens, qui sont parmi les plus anciens encore vivants sur Terre actuellement. Qui sont relativement primitifs et qui sont la majeure partie du temps fixés en fait à un substrat. Et ils ont comme particularité également d'héberger des micro-organismes avec lesquels ils vont interagir et qui vont leur permettre comme ça de synthétiser des molécules qui vont avec différentes fonctionnalités en fait. La particularité donc de tous ces organismes fixés, c'est que comme ils sont fixés, ils ne vont pas pouvoir fuir leurs prédateurs. Et donc, ils vont devoir comment dire, concevoir des stratégies en fait pour se défendre des prédateurs, mais également des pathogènes, et donc synthétiser au cours de l'évolution des molécules de défense, des molécules bioactives qui vont leur permettre de se défendre contre ces agressions. Et donc l'autre particularité aussi donc de ces molécules bioactives, c'est qu'elles vont avoir des fonctions également pour coloniser en fait le récif, parce que bon, pour ces organismes, l'intérêt c'est de trouver un endroit où s'accrocher. Donc justement, les places sont chères des fois sur les rochers, donc il faut se faire sa place et donc avoir là pour le coup des molécules plutôt d'agression qui vont limiter soit l'installation d'autres larves, soit carrément tuer entre guillemets l'organisme d'à côté pour pouvoir s'installer à sa place.
Et une éponge, juste pour avoir l'image, mais quand elle s'installe, l'éponge, elle est grande, enfin elle est petite, enfin c'est...
Disons que c'est plutôt, alors elle est plutôt petite à l'origine, ouais. Puisque c'est plutôt une forme, elle a une phase de vie qu'on appelle larvaire en fait, où elle va être dans la colonne d'eau, et à un moment donné elle va se fixer en fait à un substrat, et c'est là où elle va se développer en fait.
Elle se fixe, juste pour avoir une idée?
Pardon?
Avec quoi elle se fixe? Elle a des ventouses, des crochets?
Non, ça va être, elle va adhérer en quelque part au substrat en fait.
Une sorte de colle naturelle?
Oui, ouais. En quelque sorte, ouais, si on va aller par là, oui.
D'accord. Et donc, en fait, c'est ça qu'on comprend à travers l'exemple de l'éponge, c'est que finalement, comme le milieu marin, c'est un milieu hostile, c'est pour ça aussi que les organismes sont richement dotés, c'est ça, que les animaux, les plantes, végétaux marins sont richement dotés en toutes sortes de substances qui les aident justement à s'adapter au milieu, c'est ça?
Alors, c'est pas forcément une spécificité au milieu marin, c'est-à-dire que d'une manière générale, au niveau des organismes vivants, qu'ils soient terrestres ou marins, ils vont développer en fait tout un ensemble de métabolismes, donc de molécules en fait, qui vont leur permettre de communiquer entre eux, qui vont leur permettre de se protéger, de coloniser un espace, qui vont leur permettre de se protéger également de leur environnement, donc des rayonnements UV ou des variations de température, etc. Et après, ce qui fait la particularité du milieu marin, comme je vous le disais, c'est le fait d'avoir des organismes fixés qui ne peuvent pas, fuir, entre guillemets.
Sauver, ouais.
Voilà,
ouais.
C'est ça. Et puis aussi toute la diversité du vivant marin en fait qui fait cette particularité. Donc et c'est là où on va retrouver cette diversité qu'on ne trouve pas forcément en terrestre en fait.
Ouais, il y a plus d'espèces dans l'océan que sur Terre, c'est ça?
Surtout en nombre d'embranchements en fait. En termes d'espèces, on a plus d'espèces en terrestre, mais en termes d'embranchements,
ouais.
On va en avoir beaucoup plus en marin, puisqu'il y a 12 embranchements en fait qui sont spécifiques en fait au milieu marin en fait qu'on ne trouve pas en milieu terrestre, dont les éponges par exemple.
Mmh. Et donc vous étudiez les éponges, et quels autres organismes marins vous intéressent vous en particulier?
Disons que là, moi mon terrain de jeu entre guillemets, c'est dans le Pacifique, donc Pacifique tropical, on s'intéresse principalement aux invertébrés fixés. Donc il y a les éponges, mais également ce qu'on appelle les acidies, qui sont également des organismes filtreurs, mais un peu plus évolués.
Ça ressemble à quoi, en gros?
C'est assez difficile à définir, en fait. Certaines sont coloniales, et on va avoir un genre de petit tapis, et ça fait un peu comme des petites... Enfin, presque comme des petites bulles, en fait, qui sont accolées les unes aux autres. D'autres sont plus solitaires et massives, en fait, et un peu patatoïdes, un peu comme ça, mais disons que c'est des organismes qui sont plus évolués que les éponges et qui sont réactifs si on les touche, contrairement aux éponges. Si vous touchez une éponge, elle ne va pas réagir. Et puis il y a également les alcyonnaires, donc qui sont des coraux mous, qui sont assez présents aussi dans le sud de la Polynésie française, par exemple, et auxquels on s'est intéressé également.
Oui, c'est une question qui me venait. Il y a une grosse différence entre les éponges et les coraux
Ça n'a rien à voir.
D'accord, ok.
C'est deux embranchements totalement différents. Les coraux font partie de l'embranchement des cnidaires, en fait, comme les méduses, comme les anémones. Voilà.
Et alors, que renferment ces invertébrés que vous étudiez en particulier? Quelles sont les substances les plus intéressantes?
Disons que on va reprendre les éponges.
Et à quoi elles pourraient nous servir aussi? Oui, ouais, bien sûr, allons-y. Oui, tout à fait.
Mon dada. Mais donc, la particularité, par exemple, des éponges, c'est qu'elles ont un spectre d'activité qui est le plus large en fait des organismes jusqu'à étudier jusqu'à maintenant, et ce qui fait que En étudiant les éponges, on a toutes les chances de trouver des composés qui vont avoir une application, une potentielle en fait. Après, d'autres organismes vont avoir des applications plus, plus ciblées. Si on s'intéresse par exemple à certains mollusques comme les cônes, donc les cônes qui sont des mollusques qui chassent, ils chassent aussi bien les poissons que d'autres mollusques ou des vers, eux ont développé des venins qui leur permettent justement d'immobiliser très rapidement leur proie et de les tuer. Et donc au sein de ces venins, on a ce qu'on appelle des conopeptides, donc des peptides qui sont spécifiques en fait aux cônes et qui ont des propriétés analgésiques en fait. Et il y a d'ailleurs un médicament en fait qui est issu de l'étude des venins des cônes et dont l'application en fait est justement un antidouleur qui est 1000 fois plus puissant que la morphine par exemple. Donc c'est difficile de dire quel va être le plus intéressant. Enfin c'est en fait tout a un intérêt. En fait, ça va dépendre de l'application que l'on recherche et ce qu'on veut en faire, en fait.
Et vous, en général, quand vous travaillez sur les éponges, c'est pour quelles applications ? C'est plutôt la santé aussi ou...
D'une manière générale, ça va être plutôt la santé. Ce qu'il faut voir, c'est que les molécules qu'on isole sont souvent en très petite quantité. Donc, ça veut dire, derrière, si on veut les valoriser, des applications à haute valeur ajoutée, en fait. Et donc, dans ces applications-là, il y a notamment la santé. Et donc, trouver des composés qui ont des activités, par exemple, anticancéreuses, ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille, bien entendu. Mais on travaille également sur des applications contre les maladies neurodégénératives.
Genre Alzheimer, Parkinson, tout
ça. Par exemple, oui. Mm-hmm. Mais également, comme c'est une des vocations de l'IRD, en fait, de s'intéresser à des problématiques de la zone intertropicale ou de l'outre-mer français, c'est s'intéresser à des pathologies qui touchent spécifiquement ces zones-là. Donc ça va être le paludisme, la dengue. Mais également, par exemple, le diabète, qui dans le Pacifique fait des ravages en fait.
Et on pourrait trouver dans les organismes marins un médicament pour freiner le diabète ou corriger le diabète.
Disons qu'on peut se servir de certaines molécules en les modifiant là encore pour éventuellement trouver ce genre de choses. Après, il y a plusieurs manières en fait de concevoir en fait les choses. Soit on cible une pathologie et auquel cas on va tester par exemple des extraits de nos organismes pour savoir quel extrait va être actif en fait sur cette pathologie. Mm-hmm. Ou alors on sait qu'on a une famille de molécules qui est active contre ce type de pathologie et auquel cas on va rechercher en fait toutes les espèces qui contiennent en fait ces molécules pour diversifier en fait l'arsenal chimique et donc moduler en fait l'activité des composés bioactifs en fait.
Et juste par quel mécanisme est-ce que certains composés sont anticancéreux en fait, c'est ça que j'aimerais
généralement
comprendre.
Les propriétés anticancéreuses, c'est souvent une activité qu'on appelle cytotoxique en fait, donc qui vont permettre de tuer la cellule cancéreuse en fait. C'est souvent cet aspect-là. Après, ce que l'on va rechercher, c'est d'avoir une spécificité, ce qui est le plus difficile, puisque la différence entre les cellules saines et les cellules cancéreuses est ténue, et donc à arriver à trouver des composés qui soient le plus spécifiques possible de ces cellules cancéreuses.
Qui ne tuent que les cellules cancéreuses et pas les bonnes. Quoi. Ouais.
C'est ça le
change. Et ça, comment ça se fait que des organismes marins pourraient avoir la solution, en fait?
Là, ça peut être... un usage dérivé, en fait.
Ouais,
là encore, ça va être des composés qui vont leur permettre, par exemple, de tuer, entre guillemets, leurs voisins. Mm-hmm. Et auquel cas, c'est des molécules qui sont toxiques à la base. Et donc, nous, on va utiliser cette toxicité à des fins particulières, en fait.
Et alors, à part la santé, là, on a déjà eu un petit aperçu, mais bon, j'imagine que c'est bien plus immense. À quoi ça peut servir, en fait, ces substances marines ? Quelles peuvent être les applications ?
Alors, après sortie de ces molécules très particulières, activité aiguë, on peut se servir aussi des constituants en fait, de ces organismes comme biomatériaux, en fait. Donc, on a, par exemple, des morceaux de coraux qui peuvent servir au niveau des greffes osseuses, par exemple, qui peuvent servir... Donc, peuvent comment dire, permettre justement la reconstruction osseuse. Mais on a également des travaux sur le collagène, donc issu de poissons ou d'autres organismes, et que l'on va venir fonctionnaliser justement et utiliser pour des applications en santé.
Mmh. En santé toujours.
Là encore, comme je vous le disais, c'est des composés ou des éléments qui particulièrement coûteux.
Ouais.
Et donc, les applications sont forcément orientées vers des applications de cet ordre-là, en fait.
C'est quoi, recoller des os des fractures, non. Réduire des fractures.
Oui, non, ça serait ça, par exemple. Il y a tout un tas d'applications possibles.
Mm-hmm. Et c'est pas, ouais, enfin, vous parliez des biomatériaux, ouais, c'est pas quand même, on n'en est pas encore à s'intéresser aux composés marins pour la bioconstruction, pour la construction. De bâtiments, choses comme
fait,
ça.
Enfin,
je ne sais pas, hein, je vous pose la question.
Alors là, on dépasse.
Oui, c'est plus votre champ de recherche.
Dire, le champ spécifique des substances naturelles, mais par exemple, si on parle par exemple des sargasses, donc qui impactent les Caraïbes régulièrement, on va s'intéresser à l'usage de ces sargasses pour faire des biomatériaux comme du biocarton, en fait, à partir de ces sargasses et pour des différents usages. Donc.
Ouais, je crois qu'on a essayé de faire du plastique avec les algues vertes chez nous hein, aussi en même temps. Donc, oui.
Après, voilà, ouais. C'est, tout dépend de l'origine de l'organisme sur lequel on travaille et de ce qu'il renferme. Et c'est ce qui va définir les applications possibles. Et surtout, au final, c'est souvent malheureusement le coût en fait, que ça représente qui va définir l'usage qu'on va en faire. En fait.
Oui, c'est ça. Et alors justement, quand on a repéré une molécule intéressante... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de limiter ou on essaye d'extraire l'animal ou le végétal qui est à l'origine de cette molécule ? Comment vous faites, en fait ? Qu'est-ce qu'on privilégie ?
Alors, ce qu'il faut voir au niveau du milieu marin, comme on le disait tout à l'heure, le principal, parmi les contraintes, il y a l'accès à ces organismes, il y a la disponibilité de ces organismes. Ce qui fait que, dans l'immense majorité des cas, les organismes marins sont plutôt une source d'inspiration, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont nous donner des structures moléculaires inédites. Et après, les chimistes de synthèse vont s'attacher à reconstruire, c'est un peu comme du Lego, à reconstruire en fait, ces molécules en essayant peut-être de la simplifier en se concentrant sur justement la partie qui est responsable de l'activité recherchée. Ou en rajoutant des morceaux ou des groupes fonctionnels qui vont lui permettre d'augmenter son activité ou qu'elle pénètre plus facilement dans telle ou telle paroi. Après, si on a la chance d'avoir des organismes qu'on va être en capacité de mettre en culture, pour lesquels les principes actifs sont présents en quantité importante, on va pouvoir développer justement ce genre de filière. Mais l'idée, c'est d'avoir plutôt de la culture plutôt que du prélèvement, en fait.
De la culture ou l'élevage
culture ou élevage, oui.
Est-ce qu'on peut élever des éponges ?
Complètement.
Vrai ? Vous en élevez vous-même ?
Oui, exactement.
Ah bon, très bien, racontez-nous, juste.
Pas indirectement, mais, mais disons qu'on a un projet, justement, en Polynésie qui vient de se terminer, où l'idée, c'était justement de mettre en culture une éponge. Sur un des atolls de Polynésie et la thèse a été soutenue pas plus tard que vendredi sur ce sujet-là et ça fonctionne ouais.
Ça fonctionne
l'aquaculture d'éponge c'est pas quelque chose de complètement nouveau puisque les premières cultures étaient pour développer les éponges de bain
pour se laver
je pense que tout à chacun connaît. Et donc, après, tout va dépendre de la nature de l'éponge par elle-même, parce qu'il y a une diversité extrême au niveau de ces organismes, en fait.
Ouais, combien il y a d'espèces d'éponges, là, juste comme ça ?
On est à peu près on est de l'ordre de 8000 taxons, à peu près, en sachant que c'est quelque chose d'extrêmement difficile en termes d'identification.
Ah oui, et donc, reconnaître une éponge, c'est pas si facile que ça, quoi. Ouais.
Reconnaître, dans le milieu... Ça va, mais arriver à lui donner un nom, c'est plus compliqué. Et à l'échelle mondiale, le nombre de spécialistes qui sont capables d'identifier les éponges est assez limité. Et c'est un faisceau en fait, d'informations entre ce qu'on appelle la systématique classique, la génétique. Et puis nous, on a notre apport aussi de chimiste, puisqu'on fait ce qu'on appelle de la chimiotaxonomie. C'est-à-dire qu'on va aller repérer des molécules qui sont spécifiques de tel ou tel organisme et qui vont nous donner un indice sur la nature de cet organisme, en fait.
Et il faudra les baptiser, quoi, ces molécules.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça.
D'accord. Okay. Vous faites ça aussi, alors ?
Oui, aussi. Bah, généralement, c'est à l'occasion des publications, justement, bah, pour ce qui est des molécules, on leur donne un nom. Et pour ce qui est bah, des organismes, de la même manière, ceux qui les identifient leur donnent aussi un nom.
Là, c'est les biologistes, quoi.
Enfin, c'est plutôt les biologistes.
Ouais. Ouais, d'accord. Bon, eh ben, on voit que c'est un océan de possibles qu'on a juste goûté là, très superficiellement. Mais on va vous remercier, Sylvain Pétec. Et puis,
bah, merci à vous, en tous les cas, pour l'invitation.
Et puis, on invitera aussi les auditrices et auditeurs à réécouter tout ça sur le site internet de Radio Évasion.